Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Canu au 102.2, il est 17h, c'est l'heure de On n'arrête pas le prog, l'émission hebdomadaire de Radio Canu consacrée au rock progressif, musique progressive de façon plus générale. Cette fois-ci, je suis tout seul aux commandes, pardon. La semaine dernière c'était François, donc voilà, on interchange les rôles. La semaine prochaine on sera deux normalement, comme d'habitude. Donc voilà, ça n'empêche pas qu'on va faire une émission normale. Il y aura des longs morceaux aujourd'hui, j'ai choisi de passer 4 longs morceaux pour cette émission là, dont à la fin un classique, un grand classique, un des tout premiers classiques en fait du prog anglais, de la fin des années 60, donc je vous laisse la surprise. On n'avait pas eu l'occasion de le passer avant puisque c'est un long morceau, donc voilà, aujourd'hui je me fais un peu plaisir. Et on va commencer par contre par un truc plus récent, c'est une découverte que j'ai faite récemment. C'est un musicien anglais qui s'appelle William D. Drake, claviériste de son état, et qui est entre guillemets connu, mais ce qui l'a rendu un peu plus connu, c'est qu'il a été claviériste de The Cardiacs entre 1983 et 1991. Donc Cardiacs, groupe anglais complètement inclassable, iconoclaste, sorte de réplique anglaise à Frank Zappa par exemple, un groupe qui a influencé beaucoup de monde en fait. C'est un groupe culte anglais, mélange improbable de prog, de punk, de new wave, de plein d'autres choses. Donc on en avait un petit peu passé dans cette émission il y a un moment, il faudra qu'on en repasse d'ailleurs, parce que c'est quand même un groupe qui n'est pas assez connu. Donc entre 83 et 91, il y avait William D. Drake au clavier, c'est le line-up entre guillemets classique du groupe. Après ça a un petit peu changé, c'est parti sur un truc avec plus de guitare à partir des années 90. Donc voilà, William D. Drake, après il a continué d'apparaître sur les deux albums suivants de Cardiacs en invité, puis sur des concerts. C'est un musicien qui a aussi participé à d'autres groupes encore plus obscurs que Cardiacs. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est sa carrière solo. Parce que j'ai découvert qu'il avait fait plusieurs albums en solo depuis 2003. Donc il a entamé sa carrière solo. Il a fait 5 albums depuis. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il perpétue à sa manière l'esprit des Cardiacs, en y ajoutant des touches plus personnelles. Donc le piano et les claviers sont logiquement plus en avant que chez Cardiacs. Il y a un côté classisant, musique classique, musique romantique dans les parties de piano, un côté folklore anglais, le côté un peu chant de marin aussi parfois. Tout ça lié avec des chansons psychédéliques assez irrésistibles, assez mémorables. Et le tout enrobé d'une touche d'excentricité, par exemple, typiquement anglaise. C'est vraiment des albums qui ont beaucoup de charme, qui sont assez riches, des arrangements qui sont riches, beaucoup de claviers, il y a des cuivres, des vents, des percussions, ça chante pas mal, c'est lui qui chante, puis il y a des invités aussi qui chantent avec lui. Et celui que j'ai beaucoup écouté, c'est Rising of the Lights, le quatrième de 2011. C'est celui que j'ai préféré, donc on va s'écouter un extrait de cet album là. Et ça tombe bien pour ceux qui connaissent un peu Cardiacs, c'est celui qui entretient le plus de liens avec le Cardiacs donc des années 80. Et pour cause, il y a plusieurs morceaux qui avaient été écrits à l'époque où il était dans le groupe. Donc voilà, là c'est le morceau de clôture de l'album, c'est le plus long, qui s'appelle Home Sweet Homestay Hideaway. Donc on s'écoute William D. Drake sur Radio Canu, c'est On n'arrête pas le prog. C'est parti.
We love you, sexy dragon, insane or otherwise, exempt from sentimental, nonsensical disguise. Though you may stoop to conquer where angels fear to tread, we know you will not falter, but forge the way ahead. Oh, lovely, lonely dragon, the tide is turning now. Keep tiger in your favor, so he can be shown how. The purring of the landscape, so bold and calm and true, invites a fate more precious, a fate twixt he and you.
To a mountainside I ran away to hide and find my home sweet homestead, hide away where I may be a castaway. A long, 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 long time ago, and this old land was all we know. 100 miles apart, and this is all we have to show. All we
Voilà, c'était William D. Drake, le morceau Home Sweet Homestead Hideaway, donc extrait de son album de 2011, Rising of the Lights. Et vous êtes sur Radio Canu au 102.2, l'émission c'est On n'arrête pas le prog. Donc voilà, William D. Drake, ex-clavieriste de The Cardiacs, qui a donc une carrière solo vraiment intéressante. Je vous incite à l'écouter. Alors, encore une fois, Bandcamp, c'est magique. Il y a tous ses albums en écoute sur Bandcamp, dont celui-là. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous incite vraiment à aller découvrir cet artiste méconnu, mais à découvrir. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur de cette semaine. On continue avec, alors c'est pas un coup de cœur, c'est quelqu'un dont on a parlé quand même régulièrement dans cette émission, c'est Frank Zappa. Il se trouve qu'il y a deux jours, donc le 4 décembre, c'était on fêtait les 24 ans de sa disparition. Il est mort le 4 décembre 1993. Donc Frank Zappa, un des grands génies du rock, de la musique contemporaine, disons, du rock depuis les années 60. Alors rock, c'est un peu limité pour Frank Zappa, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, parce qu'il a exploré des tonnes de styles différents. Et moi je me suis dit c'était l'occasion de passer un morceau qui fait partie de mes tout préférés de Zappa. Et je me suis étonné qu'on l'ait pas passé, puisque c'est un des morceaux les plus typiquement prog de la carrière de Zappa, à mon goût, sur un des albums qui est aussi un des plus prog, je dirais, de Zappa. C'est One Size Fits All de 75, qui est une des portes d'entrée idéales à l'univers de Zappa, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet album avec une super production. Donc il y a des morceaux alambiqués, il y a des morceaux plus simples, des morceaux rock'n'roll, il y a de l'humour, il y a des instrumentaux, il y a des longs solos de guitare, il y a tout ce qu'on peut aimer dans Zappa. Côté jazz rock aussi parfois. Et avec une donc super prod, j'ai déjà dit. Et puis voilà, c'est l'incarnation des Mothers de cette époque-là, donc qui à l'époque de la sortie de l'album était déjà c'était déjà terminé. Donc Mothers entre 60 en gros, hein, entre 73 et 75, avec George Duke au clavier, Russ Underwood aux percussions, Napoleon Murphy Brock au chant et au sax, et Chester Thompson à la batterie, Bruce Fowler à la basse. Chester Thompson, on le connaît aussi parce qu'il a participé à Weather Report après, puis ça a été le batteur de Genesis en tournée pendant des années. Et globalement, on peut dire que la période entre Roxy and Elsewhere, qui est un live qui est sorti en 1974, et One Size Fits All, c'est la période peut-être la plus prog de la carrière de Zappa. Il y a beaucoup de compositions très écrites et très complexes, et jouées par un groupe de folie. Le mieux pour découvrir ce groupe-là, vraiment, c'est le live You Can Do That on Stage Volume 2. Vous savez que c'est une série que Zappa a sorti, une série de CD que Zappa a sorti dans les années 80. You can't do that on stage anymore. Il y en a un paquet. Et celui-là, le volume 2, donc c'est un live intégral, alors que c'est plutôt des compiles de plein de lives d'habitude. Un live intégral à Helsinki, donc en 74, si je me trompe pas, j'ai pas marqué la date. Voilà, donc assez fabuleux. Il y a des morceaux en plus qu'on ne retrouve pas sur des albums studio, comme souvent chez Zappa. Et donc bref, le morceau qu'on va s'écouter, c'est Inca Roads, donc le morceau d'ouverture de One Size Fits All. Petite merveille de composition avec un solo de Frank Zappa qui est merveilleux. Donc c'est parti. Someone build a place to leave a space.
dead of the hill go pump. I'm somewhere at the dead of the hill go pump. Somewhere rather than the Indians first on the bell, carve up the hill.
C'était Frank Zappa, Inca Roads, extrait donc de l'album de 1975, One Size Fits All. Vous êtes sur Radio Canu, 102.2, et l'émission c'est On n'arrête pas le prog. Et on va continuer avec un truc plus récent, relativement récent, ça a quand même déjà 20 ans en fait, je m'en rends compte. C'est un album live de Porcupine Tree. Ça s'appelle Coma Divine, donc c'est un extrait de cet album-là qu'on va s'écouter. Non, Porcupine Tree, c'est évidemment le groupe qui a fait connaître Steven Wilson. Maintenant, ça fait pas mal d'années qu'il a entamé une carrière solo avec beaucoup de succès, hein, comme vous le savez. Vous avez peut-être vu qu'il était même passé à Taratata récemment. Voilà, c'est la gloire. Bref, sans rentrer dans le détail de pourquoi il est passé à Taratata. Porcupine Tree, donc, c'était son groupe. Au départ, c'est son projet solo quand il a commencé en début des années 90. C'est vraiment lui sur le premier album, c'est quasiment lui qui fait tout, On the Sunday of Life en 93. Et puis petit à petit, c'est devenu un groupe. Les musiciens se sont intégrés au groupe au fur et à mesure des albums, jusqu'à devenir un vrai groupe à partir de Signify, un petit peu à partir de Sky Move Sideways, mais c'est vraiment sur Signify que c'est le premier album du groupe au complet. Signify en 97, 96 peut-être, 17, voilà. Et donc, peu après Signify, est sorti ce live, Coma Divine, qui a été réédité plus tard avec un format double CD. Au début, il n'y avait qu'un seul CD, donc avec plus de morceaux sur la réédition de 2002. Et bah, pour moi, c'est vraiment un peu le sommet de cette époque-là de Porcupine Tree, qui va changer assez drastiquement après avec l'album suivant, Stupid Dream, qui va aller dans une direction plus pop, en tout cas un peu plus calibrée, tout en restant excellent. C'est un album que j'aime beaucoup. Mais voilà, jusqu'à Signify, il y avait un peu une sorte d'éclectisme musical qui se reflétait dans des morceaux très variés, des improvisations, des instrumentaux space rock, des chansons pop. Déjà sur Signify, il y en a quelques-unes qui sont très réussies. Un côté un peu plus électronique, disons, presque technoïde des fois. Voilà, toutes ces choses qui se croisaient, qui formaient un tout étonnamment cohérent. Signify, c'est un album que j'adore. Et les premiers albums, Up the Downstairs ou The Sky Moves Always, ont aussi beaucoup, beaucoup de qualité. Même si le son a un petit peu vieilli, il fait un peu plus cheap que ce que fait Wilson maintenant, forcément. Et Coma Divine, donc c'est un live qui a été enregistré à Rome, en 97. Et voilà, le son est excellent déjà pour un live. Bon, ça a été un peu retouché en studio, mais n'empêche. Il y a une ambiance de folie, le public italien est vraiment chaud. Et l'interprétation du groupe est vraiment inspirée. Et puis voilà, c'est une époque où les lives de Porcupine Tree avaient un côté un petit peu... Il y avait un petit peu des improvisations, les morceaux étaient quand même pas mal modifiés par rapport à la version studio. Et du coup, tous ces morceaux qui sur les premiers albums sonnent un petit peu carton des fois, là ils prennent vie étonnamment avec voilà, un groupe qui joue vraiment bien. Le batteur Chris Maitland est incroyable. Et ben voilà, donc il y a notamment ce qu'on va s'écouter tout de suite, une version de Radioactive Toy, qui est une sorte de micro-tube Porcupine Tree des débuts, qui sont le premier album. Et donc là, qui a droit à une version transformée absolument magique, qui est rallongée de quelques minutes. Notamment une partie centrale qui est à demi improvisée, très minimaliste, mais assez sublime. Vous allez voir ça. Donc c'est parti. Moi, ce live fait un peu penser, alors toute proportion gardée, au live à Pompéi de Pink Floyd, dans le sens où après, ça va quand même changer, avec le plus grand succès que va connaître Porcupine Tree. Et les lives en pâtiront, ça sera des lives alors, très pro, évidemment, avec des effets visuels et des sons impeccables, mais avec cette petite magie qu'avaient les lives de cette époque, qui va disparaître pour des shows beaucoup plus professionnels, beaucoup plus rodés. Et voilà. Donc c'est parti pour Radioactive Toy de Porcupine Tree sur Radio Canu. On n'arrête pas le prog.
This is the last song of the evening. It's called Radioactive Toy. We'll be right back.
black skin. Pour me into a hole and form my next of kin. Give me the freedom to destroy. Give me radioactive toy. Run through graveyards on a dusty winter day. Spit the dirt out and try to say, give me the freedom to destroy
you.
Yeah.
C'était Porcupine Tree, Radioactive Toy, extrait du live de 97, Coma Divine, merveilleux, fabuleux. Vraiment, je vous conseille cet album-là, c'est vraiment grand art, grand live. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, je vais pour vous parler du dernier morceau, donc je vais dépêcher. Donc, le grand classique dont j'ai parlé au début de l'émission, c'est Colosseum, The Valentine Suite, extrait du deuxième album du groupe qui s'appelle Valentine Suite. Et Colosseum, voilà, c'est un des grands groupes pionniers du rock, du prog anglais, mélangeant rock, jazz et classique. C'est parmi les premiers à faire ça, avec vraiment un niveau instrumental de haute volée. C'est des musiciens qui viennent essentiellement du jazz et qui sont venus au rock parce que c'est là où ça se passait à la fin des années 60, c'est ce qu'ils ont dit. Carrière très courte, 68-71, une reformation dans les années 90. Et voilà, cet album-là, c'est un des premiers à avoir un morceau qui fait une face entière de vinyle, parce que la Valentine Twin fait 17 minutes. Puis voilà, c'est plus du proto-progressif, c'est vraiment le début du prog. Le premier album de King Crimson sortira quelques mois après. On est vraiment dans le début des grandes pages du prog anglais. Et voilà, c'est une musique qui tient encore un peu du jazz. Il y a beaucoup de solos, de sax, d'orgue, mais qui est quand même solidement structurée. Il y a une énergie du groupe qui est phénoménale, une virtuosité qui est bon, assez époustouflante pour l'époque en plus. Et voilà. Après, le groupe n'a jamais vraiment capitalisé sur les acquis de ce morceau-là, il fera jamais mieux. Et voilà, c'est un grand classique de la fin des 60s. Et puis, je vais profiter pour vous dire au revoir, parce que j'aurai pas le temps de vous dire au revoir à la fin du morceau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté pour cette fois-ci. C'était On n'arrête pas le prog. Donc, les podcasts, il y a eu des petits soucis dans les enregistrements ces derniers temps. Des soucis techniques. La petite machine qui me sert à enregistrer les émissions marche pas très bien. Donc, on a 2-3 émissions de retard sur les podcasts. Et je vais essayer de régler ça au plus vite. Hein. C'est indépendant de notre volonté, comme on dit. Voilà. Et la suite, c'est méga combi. Ça sera après le morceau de Colosseum. Donc, c'est parti. Merci encore. Le morceau, c'est Colosseum, Valentine Suite. Et voilà. Ciao, ciao.